Bonjour à tous et à toutes. Radio Campus 106.6, c'est l'émission hebdomadaire derrière la vitrine, derrière cette belle vitrine de l'université. Que se passe-t-il donc aujourd'hui au sommaire? Donc nous d'abord, on va d'abord commencer par se présenter. Qui est là aujourd'hui? Vas-y, tu te présentes.
Moi c'est Tristan, je suis étudiant.
Essaye de parler dans ton micro, Tristan.
Ah, et tu vas. Donc Tristan, je suis étudiant.
Étudiant, donc c'est à Sud, hein, c'est ça?
Ouais.
Charlotte, Sud étudiante.
Et Benoît de la FERCSUP CGT.
Claire Snesup.
Et Moussa Snesup également. Donc, au sommaire, donc, dans cette édition, on va vous donner quelques informations d'abord extra-universitaires, donc, en particulier sur la question de la manif qui a eu à Calais sur la question des migrants. Et puis après, on parlera certainement de la grève d'avant-hier, donc dans la fonction publique. Et ensuite, nous aurons quelques appréciations sur cette IDEX, encore ratée. Et puis quelques informations diverses et variées. Peut-être que Claire nous donnera quelques éléments, mais ça, on verra en fonction de sa disponibilité. Donc, commençons tout de suite donc par Calais. Et donc, nos amis étudiants étaient, nos camarades des étudiants étaient à la manif de Calais. Et ça sera cette manif qui a eu lieu là-bas. Donc il y a eu même des départs en bus d'ici, de l'assemblée.
Ouais,
vas-y, à toi.
Avec plus ou moins des problèmes pour partir en bus, mais bon, ça c'est dû plutôt à un manque d'organisation de notre part. Enfin voilà, on va passer là-dessus. Ouais, ben, une manif qui, enfin personnellement, pour avoir y été, j'avais le sentiment que ça s'était plutôt bien passé. Même si en rentrant, les rares retours qu'on a pu voir dans la presse, c'est une personne qui a sorti son flingue et la statue du général de Gaulle qui a été taguée. Effectivement, on l'a vu taguée, mais on a surtout vu le beau randonnion de CRS qui protège encore le général de Gaulle. Je me demande s'ils sont toujours là-bas, d'ailleurs. Enfin, sinon, ouais, c'était une manif où il y avait quand même pas mal de personnes et c'était plutôt sympa de voir autant de personnes là-bas pour ça.
Donc, on peut rappeler que Calais, en fait, bon, peut-être pour nos auditeurs qui ne connaissent pas tout l'historique, Calais a toujours été, en fait, un endroit. Il y avait un centre, en fait, il y a longtemps, hein, il y avait un centre là-bas où, qui permettait d'héberger des migrants. Ce centre a été démantelé par le gouvernement, par Sarkozy lors de sa mandature, hein, donc. Donc ces migrants sont déportés dans ce qu'on appelle maintenant la jungle de Calais. C'est un peu ça. Donc c'est une ville à ciel ouvert en fait dans la jungle, dans cette forêt. Et donc qui vivent dans des conditions absolument effroyables en fait, abominables. Donc il y a un certain nombre d'associations, je pense, qui interviennent là-bas. D'après ce que j'avais compris aussi, il y avait pas mal d'associations britanniques. Est-ce que tu peux
c'était
confirmer?
C'était une manif plutôt internationale parce qu'il y avait effectivement des personnalités britanniques, d'autres pays également, il me semble, mais je me souviens plus exactement lesquels. Il me semble qu'il y avait également des personnes qui venaient d'Italie ou quoi pour soutenir. Donc ouais, c'était plutôt un gros rassemblement avec des associations qui venaient un peu de partout. Mais effectivement, il y a des associations qui sont présentes quotidiennement sur le camp de Rome qui viennent d'Angleterre, il me semble.
L'idée là, c'était de faire du coup samedi dernier une initiative de solidarité internationale, hein, pour montrer que la question des frontières, elle ne concerne pas que notre petit pays à nous et notre machin, et voilà, notre précaré, et qu'on n'est pas meilleur ou moins pire que les autres. Et voilà, du coup, c'était à l'initiative, ouais. Je crois que d'ailleurs, c'était à l'initiative des associations britanniques, en fait. Qui avait lancé cette initiative, cette idée d'une manif internationale à Calais.
Oui, en fait, parce que en fait, ce qu'il faut dire aussi à nos auditeurs, c'est que en fait, à Calais, pourquoi ce lieu Calais? Alors on pourrait se dire, bah oui, pourquoi Calais, pourquoi pas, je sais pas, le Creusot, ou enfin voilà, pourquoi Calais? Parce qu'en fait, tous les migrants qui vont à Calais, en fait, leur intention, c'est d'émigrer en Angleterre. Ce n'est pas de rester en France. Hein. C'est les migrants qui sont sur Calais. Leur intention de première, c'est quand même d'aller sur l'Angleterre. Et donc l'Angleterre, évidemment, vu que la seule manière d'aller en Angleterre, c'est soit par le tunnel, soit par la mer, hein, soit par le Channel. Là. Donc voilà. Donc on se retrouve avec des tas de migrants cantonnés là-bas à Calais. Et donc en fait, la France fait un peu office. Certains pays en Afrique du Nord font garde frontière pour l'Europe, voilà. Donc c'est un peu le même principe. Ici, on fait les gardes frontières pour l'Angleterre à Calais. Voilà.
Ouais, pour revenir sur les conditions dont tu parlais, sur ce qu'ils appellent la jungle de Calais, justement, vu qu'ils ont encore besoin de fournitures, de vêtements ou quoi, il y a encore des collègues qui sont organisés en ce moment à Lille. Donc, si vous êtes intéressé,
n'hésitez pas. Il y a pas mal d'infos qui tournent sur ce genre d'initiative. Et voilà, nous, on avait lancé quelques-unes sur les facs, sur l'île 2 notamment. Je crois que les copains, ils en avaient lancé une. Ça avait bien tourné. Et voilà, du coup, c'est toujours, toujours quelque chose qu'on peut faire aussi à côté de notre activité syndicale sur l'université.
Donc, on peut venir à la maison des étudiants ou...
Alors, on va venir à la grève du 26 pour les collectes.
Oui, pour les collectes.
Pour les collectes. On peut transmettre à la maison des étudiants. On peut transmettre. Il y a pas de souci. On l'a déjà fait pour d'autres assos et pour d'autres collectifs. Donc nous, on transmet. Il y a pas de souci.
Super.
D'accord. Bon, très bien.
Et on va passer à la grève du 26 comme sujet, je sais pas.
On va peut-être faire une petite pause, je pense.
On fait une petite pause.
Allez, petite pause.
Petite pause musicale. Une fois n'est pas coutume.
Qu'est-ce que... Oui, c'était plus compliqué la semaine dernière pour ceux qui nous suivent. Et donc, on va écouter Stacy Kent.
Ok.
Que la lumière soit passe les heures qui se coulent à jamais les secondes et que la lumière soit au loin entends-tu le prix qui court au point juste au point du jour à deux pas de chez toi. De pas de chez moi. Tombent les feuilles et les larmes sous tes joues qui roulent et que la lumière soit. Passent les anges et les orages au-dessus des foules et que la lumière soit. De chez toi, à deux pas de chez moi, et que la lumière soit comme au premier jour du premier mois de nos corps à corps, et que la lumière soit dans la cité qui n'en finit pas. Viens l'aurore à deux pas de chez toi, à deux pas de chez moi. Que la lumière soit comme au premier jour du premier mois de nos corps à corps, et que la lumière soit dans la cité qui nous finit pas, qu'où vienne l'aurore à deux pas de chez toi, à deux pas de chez nous.
Radio Campus 106.6, c'est toujours derrière la vitrine si vous nous voyez derrière la vitrine, bon, je vois qu'il y a Pierrot, un ancien, un vieux militant de Radio Campus qui est là, qui nous regarde, derrière la vitrine. Donc voilà, donc je voudrais qu'on parle un petit peu en fait de la, enfin, de la grève de mardi, hein, enfin, sur la, de la fonction publique, bon, qui portait essentiellement sur la question donc, sur la question des salaires, parce qu'en fait, globalement, lorsqu'on est, on entend les médias, beaucoup de choses sont basées sur des idées un peu fausses. La première, par exemple, alors je parle des profs, mais je parlerai également aussi des personnels BIATS, parce qu'ils sont évidemment aussi dans la fonction publique ou dans le supérieur et sont très impliqués également. Souvent, on dit que les profs sont bien payés en France. Voilà. Ça, c'est la phrase typique que monsieur, enfin, toutes les chaînes de télévision portent à l'attention des Français. Globalement, en fait, en général, déjà, rien qu'en France, les enseignants sont à peu près, en moyenne, touchent des salaires, en fait, 35% moins élevés que ceux des agents de la fonction publique avec une qualification équivalente. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, lorsqu'on dit que les profs sont bien payés en France, le SMIC brut en 2016 est à 1466 euros. Un agrégé, c'est-à-dire quelqu'un qui a un niveau bac plus 5, donc qui a passé le concours, il est à son premier échelon, quand il débute, il est à 1754 euros, c'est-à-dire 1,2 fois le SMIC. Pour un maître de conférence, c'est-à-dire qui a un bac plus 8, donc lorsqu'il démarre, il débute, au premier échelon, il démarre à 2100 euros, soit 1,4 fois le SMIC. Alors, pourquoi donc dans la fonction publique on se bat sur la question des salaires? Parce que depuis un certain nombre d'années, il y a ce qu'on appelle l'indice. Donc le point d'indice, hein, le point d'indice, parce que les fonctionnaires sont payés sur une échelle indiciaire en fait, et en fait cette échelle indiciaire, donc pour le point d'indice vaut une valeur donnée, et c'est en multipliant la valeur du point d'indice par l'échelle dans laquelle vous êtes, que vous obtenez le salaire mensuel. Donc, cette valeur du point d'indice, en fait, globalement, si on regarde depuis 1990, le pouvoir d'achat des fonctionnaires, globalement, a diminué de moins 25%. On a perdu moins 25%.
Parce que le point d'indice n'est pas indexé sur l'inflation.
Voilà, le point d'indice est gelé. Et le gel de ce point d'indice conduit mécaniquement justement à une baisse du pouvoir d'achat, parce que l'inflation est en croissante, forcément. Le point d'indice reste en constant, donc chaque année, nous perdons donc du salaire. Donc, si on regarde par exemple si la valeur du point d'indice avait suivi l'inflation, il serait aujourd'hui de 5,4 euros au lieu de 4,6 actuellement, c'est-à-dire à peu près 0,8 euros par point d'indice, ce qui représente des sommes astronomiques, comme nous allons le voir tout de suite. Par exemple, allez, on va prendre des exemples concrets, un BIATS, donc c'est un personnel administratif ou technique de l'université, qui est en catégorie C, qui est on va dire en fin de carrière. Son salaire indiciaire, globalement, brut, il est à l'indice 369, c'est l'échelle maximale pour la catégorie C. Il est à 1709 euros. S'il avait suivi l'inflation, ce salaire serait normalement de 1993 euros. Ça veut dire une perte mensuelle de 284 euros. C'est énorme. S'il était, par exemple, maintenant, si on prend, par exemple, l'autre volet de versant des catégories, en fait, dans les BIATS, si on prend les catégories A, c'est-à-dire les plus élevées, sur l'indice 658, il est actuellement à 3047 euros, il devrait être à 3553 euros, soit une perte mensuelle de 506 euros. C'est donc, encore une fois, globalement, voilà pourquoi les gens se battent, en fait. Et donc, bien sûr, parce qu'on perd pas mal d'argent.
Et on essaye de compenser avec des primes.
Oui, alors voilà, on compense avec des primes. Et en fait, le gel, finalement, va annuler ce qu'on appelle la progression à l'ancienneté, en fait, hein, tout ce qui est promotion, etc. Ce gel-là les annule de fait, parce que en fait on rattrape à peine avec ces promotions-là normalement le retard lié à ce gel du point d'indice. Donc globalement, c'était l'une des raisons, bien sûr, pour toute la fonction publique, évidemment, c'est un peu ça, hein, c'est-à-dire que le gel du point d'indice conduit peu ou prou à des variations, donc à des pertes de pouvoir d'achat qui dépendent évidemment de la catégorie dans laquelle on se place, mais de toute façon, c'est le jeu du qui perd perd ici, hein. C'est pas, il y a personne qui gagne. Hein.
Et d'autant que se développe de plus en plus le recours aux contractuels, c'est-à-dire que de moins en moins on a recours à des titulaires, personnel titulaire, et de plus en plus on a recours à des contractuels. Et quand on voit que même par exemple sur certaines universités, les paiements des vacations sont pas mensuels. Par exemple, des vacataires, des gens qui sont vacataires d'enseignement, ils n'ont pas des rémunérations mensualisées. Ils ont des rémunérations à l'année ou
ils sont payés à la tâche.
Ils sont payés à la tâche.
C'est ça, exactement.
On les paye à la tâche et on refuse à l'heure et on refuse de mensualiser leur rémunération. Jusqu'au bout, quoi.
Alors, si on parlait un peu peut-être de la manif, donc je pense que la mobilisation a été relativement intéressante au niveau national. Alors maintenant, au niveau lillois, bon, j'ai pas pu assister à la manif, mais quelques... Toi, tu y étais, hein.
Ouais, j'y étais avec la CGT. Et donc, au niveau lillois, ça, c'était correct. On regrette la dispersion des filets, en fait. Il me semble qu'il y a eu 4 défilés entre la CGT, Force ouvrière, les pompiers et les enseignants et la réforme du collège. Voilà, ça c'est un petit peu dommage, mais on s'est tous retrouvés quand même autour de la Grand Place et donc on s'est retrouvés, on était ensemble et il y avait plutôt pas mal de monde quand même.
D'accord. Voilà. Donc, qui était aussi, tu m'avais dit, non, c'est...
On avait effectivement des étudiants qui étaient, qui effectivement, pareil, ne sont pas partis du même endroit que la CGT, si ma mémoire est bonne, puisqu'ils suivaient le cortège des enseignants.
Ouais, je crois que c'était...
Donc, depuis la porte de Paris.
Mais effectivement, ils vous ont retrouvé sur la Grande Place et... D'après le tour qu'on a pu avoir, effectivement, c'était un peu dommage qu'on ait tous, qu'on a tous un peu scissionné pour la manif.
Ouais, mais après,
il y a eu quand même pas mal de monde.
C'était dynamique, quoi.
Si je me suis bien, on est largement mieux coordonnés à Radio Campus entre les organisations.
Nous, on arrive à se retrouver tous les jeudis à la même heure.
Tous les jeudis absolument. À 14h, on est tous là, il n'y a pas de problème. Hein.
D'accord. Merci Radio Campus
de coordonner les créateurs de liens syndicaux.
Union syndicale, voilà.
Donc, je propose qu'on fasse une petite pause et puis on traitera ensuite
l'IDEX.
De la suite de l'information et de l'IDEX.
Ok, alors je propose, si je retrouve mes boutons, qu'on écoute HK.
Devant mon poste de télé, je les vois me raconter des salades. Disent que la Terre est en danger, disent que notre planète est malade. Ils me font flipper ces écolos, à nous dire qu'on va tous crever. Faudrait qu'on roule tous à vélo, et pourquoi pas voter Beauvais. Moi je préfère rouler en humeur, manger des sandwichs OGM. Climat fond, 300 à l'heure, Total, GPS, GSM. Vu qu'on doit tous y passer, alors allons-y tous en même temps. Faisons pas les choses à moitié, profitons-en.
Yes, we can.
Niquons la planète. Niquons la planète. Niquons la planète. Niquons la planète. I have a dream, j'ai fait un rêve d'une guerre mondiale nucléaire. Où les enfants d'Adam et Ève s'entretueraient comme des frères. I have a dream, oui j'ai rêvé d'un tsunami tremblement de terre qui détruirait l'humanité, nous enverrait tous en enfer. Faisons péter la couche d'ozone, rasons tout, faisons place nette. Ne laissons surtout pas à nos mômes le plaisir de payer nos dettes. I have a dream, je vous le dis, I have a dream, alléluia. Et quand viendra ce jour béni, prions pour voir ça. Niquons la planète. Niquons la planète. Niquons la planète. Niquons la planète. Et tant qu'à faire, faisons le bien. Faisons pas les choses à moitié. Vu que de façon on va tous crever. Un seul objectif en tête.
Faisons l'amour à la terre.
mer, du CO2 dans l'atmosphère et du phosphore dans nos rivières, de la dioxine dans nos déserts, des piscines en plein désert, 50 degrés en plein hiver, et tant pis pour l'ours polaire. Un ours, à quoi ça sert?
Niquons la planète,
niquons la planète,
niquons la planète,
niquons la planète,
niquons la planète. Niquons la planète. Et tant qu'à faire, faisons le bien. Faisons pas les choses à moitié.
Niquons la planète.
Vu que de façon on va tous crever.
Niquons la planète.
Un seul objectif en tête. Niquons la planète.
Niquons la planète.
Parce que c'est ma raison d'être.
Derrière la vitrine sur Campus 106.6, pour les, pour, y a un terme mnémotechnique qu'on utilisait avant, je ne sais pas s'il l'utilise toujours, c'est saucisse pois chiche pour 106.6. Hein.
D'accord.
Campus 106 pois chiche. Et donc, okay. Comme ça, on connaît la fréquence facilement de Radio Campus. Et on vient écouter Derrière la vitrine le jeudi de 14 à 15h. Je vous rappelle que Derrière la vitrine est une émission libre. Des organisations syndicales, des personnels et des étudiants de l'Université de Lille. Donc ici, aujourd'hui, nous avons avec nous la CGT, Sud Étudiants et la FSU à travers de quelques représentants, doit-on dire. On va vous parler un petit peu de l'IDEX. Alors l'IDEX, on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Donc peut-être un petit rappel historique sur ces questions-là, parce que je pense que les gens ne connaissent pas vraiment...
Ceux qui nous suivent savent parfaitement ce qu'est l'IDEX.
Ils en ont bien entendu parler, en tout cas.
Ceux qui nous suivent certainement connaissent l'IDEX, mais bon, je veux dire, c'est quand même déjà, c'est un jargon d'universitaire, hein, tout ça, hein, encore une fois. Hein. IDEX, c'est Initiative d'Excellence. Alors ça, c'est la conséquence, finalement, de ce qu'on a appelé le processus... d'autonomisation, ça marche. D'autonomisation des soi-disant entre guillemets, je mettais ça bien sûr le terme autonomisation entre guillemets, hein, des universités avec les lois et les rues et tout ce qui va avec. Et donc globalement, il s'agit en fait, l'État normalement a le devoir évidemment d'assurer l'enseignement supérieur et la recherche, un service d'enseignement et de recherche public, et donc s'assurer de sa qualité. Maintenant, en fait, comme il n'assure plus la qualité sur tout le territoire, il jette un os à ronger à toutes les universités et puis il leur demande de se jeter dessus. Et puis les plus forts, ils mangent. Les autres, ils crèvent. Voilà, c'est un peu le principe des IDEX. Alors, si on regarde un petit peu comment ça se passe. En fait, l'IDEX, le principe, c'est de dire, pour pouvoir bénéficier d'un IDEX, il faut que vous fassiez des choses. D'accord ? On vous soumet un certain nombre de contraintes, il faut les réaliser. Donc en fait, tout le monde se jette là-dessus, tout le monde réalise ses contraintes. Par exemple, ici, le processus simple ici, c'est la fusion des trois universités, par exemple. Hein. Fusion des trois universités, ça veut dire un grand chambardement, finalement, à l'échelle de la métropole. Hein. C'est pas aussi simple que cela. Et donc, en fait, on vous demande de faire des choses, mais vous n'êtes pas sûr de gagner, même si vous les faites. Hein. Globalement, on vous demande de faire des choses qui sont peut-être un peu destroy, on va dire, et puis derrière, vous n'êtes même pas sûr de gagner. Donc évidemment, après, vous pouvez pas, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Ce qui s'est produit également, ce qui s'est produit ici, c'est un peu ça. C'est-à-dire que globalement, à l'échelle du territoire national, un certain nombre d'universités ont candidaté. Pour rappel, pour l'IDEX, je crois que c'était, il y avait 4 universités. Il y avait Grenoble, Paris-Est,
Nice.
Il y avait Clermont aussi. Et Montpellier, il y avait une petite dizaine de candidats.
C'est les e-sites. Il y a deux types de.
Et Montpellier, c'était resté sur un IDEX, je crois.
Deux types. Donc, il y a le téléphone qui sonne, j'espère que ce n'est pas quelqu'un qui va nous engueuler. Bon. non, je plaisante. Donc, en fait, il y a un concours qui est fait. Alors, on se demande déjà, sincèrement, pourquoi. Donc, en fait, globalement, ça veut dire qu'on met de fait les universités en concurrence. Le principe ici, Alors que normalement, dans, dans le principe du service public d'enseignement supérieur et de la recherche, c'est d'avoir quand même quelque chose qui soit équilibré au niveau national, et donc d'avoir des universités publiques qui permettent de mettre en, qui mettent en place un enseignement de qualité, une recherche de qualité, etc. Maintenant, en fait, c'est la course, c'est-à-dire on crée de la concurrence, et donc si on peut faire des crocs en jambes à son voisin, on se gêne pas, et puis voilà. Donc c'est le principe, c'est vraiment le principe de la concurrence qui est complètement contraire au principe de la, comment on appelle ça, de, au principe justement de service public, en fait, au principe de service public. Et donc dans ces conditions-là, évidemment, c'est facile parce qu'en fait l'État se décharge de sa responsabilité qui consiste à prendre en charge ce système-là en disant bah voilà, moi j'ai une enveloppe, alors je mets cette enveloppe-là et puis voilà, jouez tous maintenant et puis on va choisir qui va gagner cette enveloppe.
Qui
voilà,
est assez excellente pour voilà. Mériter cette enveloppe.
Donc ça veut dire que pendant qu'on donne de l'argent à certains, eh ben, les autres n'en ont pas. C'est ça que ça veut dire surtout. Mm-hmm. Et donc ça veut dire que là où il y en a pas, eh ben, comment voulez-vous que le système s'améliore là où il y en a pas? Forcément dans des sens opposés.
D'autant que cet argent, il est destiné à des choses précises, il n'est pas destiné au fonctionnement quotidien forcément de l'université.
Oui, c'est-à-dire qu'après, derrière tout cela, il y a des projets à l'intérieur. Bon, par exemple, sur la question de la recherche, ça ne concerne pas tout le monde, ça peut concerner que 30% des effectifs. Enfin, bon, voilà. Il y a un système. Déjà, c'est élitiste, globalement. Et à l'échelle microscopique, c'est également élitiste parce que même à l'échelle de l'université qui est IDEX, il y a des injustices qui vont se mettre en place parce que, justement, l'argent n'est pas destiné à tout le monde.
Alors, du coup, est-ce que l'université va fermer parce qu'on n'a pas eu l'IDEX ? Parce que ça nous a été... on a l'impression que depuis un an, c'est l'alpha et l'oméga de la stratégie de l'université, c'est l'IDEX. Bah. Et aujourd'hui, tout tombe à l'eau. Qu'est-ce qu'on fait demain ?
Le problème essentiel, à mon sens, ici, c'est que, les universités, en termes de moyens... n'ont pas suffisamment les moyens, ça c'est clair, on le sait, on le voit.
Il y a des rapport aux universités donc, du nord de la France, il y a des études qui disent que le taux d'encadrement est moins élevé que dans l'ensemble des autres universités.
Voilà, et donc les universités ayant de moins en moins de moyens récurrents en fait pour leur fonctionnement, bon, elles sont obligées d'aller chercher l'argent. Le seul moyen d'aller chercher l'argent, c'est dans ce type de concours au final, parce que ils ont pas pratiquement, c'est ça leur seul. Alors que finalement, si on avait affaire à des gens raisonnés, on pourrait se dire que, bon, quand même, il y a 80 universités en France, hein, on pourrait quand même mettre en place un rapport de force qui permettrait justement de faire poids et puis de dire, bah, écoutez, l'argent, toutes les universités en ont besoin, il faut trouver des solutions et pas simplement pour deux ou trois universités d'excellence, mm-hmm. pas pour mettre en place un système élitiste. Donc, il y a quand même dans les politiques qui sont menées une fuite un peu en avant, même des directions d'université qui décident d'aller de plein pied là-dedans plutôt que d'essayer de construire une stratégie avec d'autres universités pour créer des rapports de force qui permettent de négocier en direct avec le ministère. À mon sens, voilà la problématique.
Ouais. Moi, j'ai trouvé que la réaction de la présidente de Montpellier 3 était plutôt saine. Elle a été plus ou moins écartée du projet IDEX, cette université. Et maintenant, les deux autres universités de Montpellier...
Qui ont fusionné.
Ou sont en cours de fusion, lui reprochaient presque d'être restée à part, en fait. Mais elle dit l'argent pour l'université ne doit pas venir d'un projet IDEX ou de quoi que ce soit. L'État doit prendre ses responsabilités par rapport au service public et doit mettre les moyens nécessaires face à ses ambitions pour le service public.
Oui, la présidente de Montpellier, ça a toujours été très critique hein, vis-à-vis de tous les systèmes, de toute la politique sur l'enseignement supérieur, la LRU, etc. Bon, c'est quelqu'un qui a toujours été... contre ces aspects-là. D'autant plus qu'il y a un certain nombre de présidents d'universités qui ont quand même qui sont regroupés pour signer une motion contre justement ces types de financement, etc. Quoi. Je pense qu'il y a moyen de créer un rapport de force dans ce pays, en fait, dans les universités, mais il faut qu'effectivement les directions d'université aillent jouer le jeu et qu'elles y aillent, et non pas jouer le jeu de l'excellence, jouer soi-disant le jeu de l'excellence et puis de se rétamer dans ces faux concours, en fait, parce qu'au final on va juger de la qualité. Alors, lorsqu'on regarde un peu les critères, au final, on juge de la qualité, bon, globalement scientifique des universités, enfin, à travers leurs chercheurs, etc. Mais pour pouvoir le faire, il faudrait que les universités partent d'un pied d'égalité. Or, on sait que dans le Nord-Pas-de-Calais, par exemple, il y a un déficit chronique de chercheurs, mais qu'il y ait un état historique des choses. Après la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas investi ici dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le monde universitaire, parce que c'était une région très industrialisée et que l'enseignement supérieur et la recherche n'était pas une priorité. Donc c'était une politique, c'est la politique de l'État central qui a fait que le Nord-Pas-de-Calais a accumulé de retard dans ce domaine-là, par exemple.
Et on peut aussi rappeler que le prix à payer pour les personnels, entre autres pour l'IDEX, est quand même important. Enfin, pour montrer patte blanche, aujourd'hui, on a gelé des postes. Des postes d'enseignants, des postes de biats, alors même que le nombre d'inscriptions
augmente
fortement sur l'université. Il y a ce coup-là pour les personnels et les usagers, et il y a aussi le coût de la fusion. On ne sait pas demain comment sera faite la fusion. À quelles conditions pour les personnels, à quelles conditions pour les usagers également qui ne savent pas où se situeront les formations qu'ils suivent. Et il n'y a aucune réponse qui est donnée au personnel à ce niveau-là, alors qu'on le demande depuis des mois.
La seule réponse qu'on nous a donnée, là, parce qu'il y a eu le retour l'échec, donc c'était vendredi, et la seule chose qu'on nous a dit lundi, c'est les universités lilloises fusionneront quand même. Donc il y aura bien une fusion au 1er janvier 2018, etc. Mais sans réponse sur ça, et sans aucune réponse sur les vrais problèmes que tu soulignais, Benoît. C'est-à-dire sur les gels de poste, sur l'augmentation du nombre d'inscriptions, etc. C'est-à-dire qu'on a masqué ces problèmes pour faire patte blanche au moment de l'IDEX. Maintenant qu'on l'a plus, ces problèmes vont toujours être masqués de toute façon, puisque ça arrange tout le monde qu'on les ait oubliés, ou ça arrange bien sûr les présidents d'université de ne pas en parler. Et le seul réflexe, finalement, qu'ont ces présidents, il y a deux réflexes. Il y a le réflexe de dire peut-être que notre dossier était mauvais, on n'était pas assez loin, on n'était pas assez ambitieux, etc. On n'était pas assez excellent, qui est un réflexe. On était des trop mauvais élèves.
Jusqu'au boutiste,
voilà, non mais c'est ça. Et en parallèle, il y a cette idée de réflexe, entre guillemets, individualiste, lillois ou régionaliste, de dire mais vous vous rendez compte, il n'y a aucun IDEX au nord de Paris. Les IDEX, c'est l'idée de, on va sélectionner des pôles universitaires sur lesquels on va injecter de l'argent et les autres n'auront rien. Mais du coup, mécaniquement, on va créer des déserts. Alors que le désert soit au nord de Paris ou sur la Côte d'Azur, moi personnellement, je sais pas, je suis attaché à ma région, mais bon, ça m'embête de prendre de l'argent aux autres dans une logique de concours. Et la seule chose que critiquent les présidents d'université, c'est le résultat. Ils disent le résultat est injuste. Non, c'est les règles du concours qui sont injustes. C'est l'idée même qu'il y a un concours pour avoir des moyens qui est injuste. Et ils mènent aucune réflexion là-dessus. Il n'y a aucune réflexion, et bien entendu qu'il n'y a aucune réflexion, parce qu'ils ont soutenu jusqu'au bout ce projet, ils ne vont pas y réfléchir. Mais nous, ça doit nous amener aussi, enfin, je pense que ça doit amener personnel et étudiant à réfléchir sur, voilà, on n'a pas eu l'IDEX, pourquoi ? Parce qu'on serait mauvais, on serait des mauvais élèves, on serait... Non, parce que c'est un concours, et qu'à un concours, on peut perdre, et on peut gagner, et que parier l'avenir d'une université et ses moyens sur un concours, c'est toujours risqué.
Et c'est effectivement le moment pour les personnels de demander des comptes, d'autant plus que, on va le rappeler, on en a parlé la semaine prochaine, mais la semaine dernière.
Retour vers le futur sur Radio Campus.
Dans la médecine voyage.
Et donc on en a parlé la semaine dernière, mais le 22 mars, il y aura les élections des conseils. Et donc c'est l'occasion, ces élections, de demander des comptes et de demander
N'hésitez surtout pas à voter pour les listes syndicales, vous êtes sûr d'être protégé.
De demander les positions des différents candidats, des différentes listes à ce niveau-là. Et effectivement, rappelons-le, la FSU-CGT présentera des listes dans les conseils de l'université.
Chez les personnels, les sud-étudiants, j'imagine, présentera des listes chez aussi également. Chez les étudiants, en espérant que nous ferons le raz-de-marée et que nous allons prendre la direction de cette université.
Ouais.
Donc si on prend la direction de cette université, la fusion, on la jette, hein, bien sûr.
Voilà. On la jette. En tout cas, ce qu'on a demandé pour le moment, c'était d'avoir une consultation des personnels là-dessus. Une consultation des personnels qui permettrait enfin de mettre sur la table les problèmes et de mettre sur la table les conditions de travail à venir pour tous. Quoi.
Et bien entendu, on nous l'a refusé, c'est évident.
Oui, on nous l'a refusé. Les directions ont été très interloquées au moment où ça a été proposé. Et donc, elles ont été soutenues en ça par toutes les organisations syndicales du CT, à l'exception de la FSU et de la CGT.
Oui, en plus, d'autant plus que c'était question de l'Université de Lille. À la limite, bon, je veux dire, bon, en tant que universitaire, l'idée d'une université lilloise me paraît intéressante dans le sens où elle mêle à la fois des scientifiques, des littéraires, des sciences humaines, etc. Mais il y a différentes manières de construire cette université lilloise. Mm-hmm. On aurait pu imaginer un système fédéral, par exemple, hein, qui permettait de garder à la fois de la démocratie locale à l'interne et puis d'avoir une vision globale, en fait, d'avoir une politique globale peut-être à l'échelle de la métropole.
Il est temps de dire aux personnels et aux usagers où on en est et qu'est-ce qui va se passer pour eux dans moins de 2 ans, en fait.
Et les deux motivations de la fusion aujourd'hui, on l'a dit plusieurs fois ici, c'est cette idée d'excellence, d'attractivité internationale et surtout l'idée de faire des supposées économies, alors qu'on sait qu'une fusion coûte de l'argent, en fait, hein, au final, mais c'est l'idée de faire des économies. Et ça, c'est faire des économies. On sait très bien que dans la situation actuelle, ça va avoir des conséquences dramatiques sur les conditions de travail des personnels et les conditions de travail des étudiants.
On ne fait pas de rappel, comme la semaine dernière, sur l'état des toilettes partout.
Les toilettes, on a déjà fait plusieurs fois.
Ok, allez, on se fait une petite pause, musicale.
Oui, avec les Fatal Picards.
Voilà, avec les Fatal Picards.
Ils sont marrants, cette année. C'est difficile de deviner dès la rentrée. Lequel se fera arrêter pour les scouts qui leur a piqué. Lequel sera incarcéré pour avoir trop dealé. Moi, en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie, c'est juste vaguement les spaghettis et Rocco Siffredi. Au programme de cette année, en français faudrait arriver à lire tout un livre en entier. Mais même Damon et Marc Lévy, y'a plus de 100 mots de vocabulaire. On sera toujours à lire la préface même après l'hiver. Et mon voisin me voyant me dira, bande de feignants, alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est que bosser. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez bien moins qu'un facteur. Et dire que je paye tous vos congés, et puis vous êtes même pas bronzés. Sans copie à corriger, 2-3 Prozac, 8 cafés. Mais je l'entends quand même dire d'en bas, je compte même pas la sécurité de l'emploi. Tu es aux lunettes, c'est mon surdoué. Il sait écrire son nom sans faute, il sait compter. Waouh, bah c'est pas mal pour un troisième, il faut savoir s'en contenter. C'est clair qu'un intello pareil, il va se faire raquer. T'es 35 élèves cette année, je leur ai demandé ce qu'ils voulaient faire comme métier. J'ai dit Zidane, 15 Amel, Bette et 9 Booba. Un original qui veut faire vigiler avocat. Il a dû voir chez Courbet, c'était pas mal d'être avocat si jamais t'allais en prison. Ils croient qu'ils auront leur brevet en regardant l'île de la tentation. Merci pour tout ce que fait pour eux la télévision. Et mon voisin, le même client, me dira, bande de fonctionnaires, alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est bosser. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez moins qu'un contrôleur. Et dire que je paye pour mon gamin, il a redoublé son CE1. Vite les bulletins à remplir, 2-3 Prozac et 8 Kir. Mais je l'entends quand même dire d'en bas, je compte même pas la sécurité de l'emploi. Les directives du ministère nous imposent faire des réunions plus régulières. On en fait même pour planifier les prochaines réunions, pour décider de ce qu'on peut donner sans risque comme sanction. Fini les notes de temps en temps, faut juste leur envoyer des SMS d'encouragement. L'évaluation c'est pas toi qui l'a fait, eux ils disent si t'es cool. Je préfère encore qu'ils me donnent des notes plutôt que des coups de boule. Impossible de les faire redoubler. Les pauvres chéris, faut surtout pas les perturber. Les programmes, faut les simplifier. Y'a trop de leçons, ça les assomme. Ils ont même proposé de donner le bac avec la prochaine PlayStation. Et mon voisin, vous le connaissez, me dira, bande de surpayés, vous foutez rien de la journée, vous devez pas être fatigué. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez bien moins qu'un chômeur. Et puis pas de chèque et pas de rendement, c'est pas pour ce que vous faites vraiment. Les parents à rencontrer, 2-3 Prozac, 8 Grand Marnier. Et vu leur investissement, l'année prochaine ira pas en s'arrangeant. Faudrait peut-être songer à les adopter, venir l'élever le matin, le soir, les coucher, et peut-être dormir à leur place. pour qu'il reste éveillé en classe. La prof de gym n'est pas venue, s'est fait agresser dans la rue. Mais bon, il l'avait averti, ils veulent pas de sport avant midi. Ils peuvent genre pas fumer en classe, et ça déjà c'est dégueulasse. Entre chaque tour, une bière, un joint, c'est quand même pas des gros besoins. Cette fois-ci c'est décidé, mes gosses iront dans le privé. J'ai beau regarder à deux fois, je la vois pas tant que ça. La sécurité de l'emploi.
106.6 sur Radio Campus, donc à l'écoute de Derrière la vitrine, l'émission donc des organisations syndicales des personnels et étudiants de l'Université Lille 1, sciences et technologies. Donc nous allons peut-être toucher un petit mot sur, peut-être par Claire, parce que c'est Claire qui est un peu là-dessus. D'ailleurs, on pourrait même se lancer un débat sur cette question-là, puisque au final, la question finalement de ce qu'on appelle la question de l'égalité homme-femme, en fait.
Oui, en partie. Bon, c'était un peu, je voulais revenir sur le CT, le dernier CT qu'on a eu avec la direction. Et disons que l'ambiance générale me déplaît à chaque fois, parce que souvent on a l'impression d'avoir la chance d'être consulté. Alors ça, c'est toujours des choses qu'on nous...
Merci, patron.
Et donc c'est vrai que c'est assez agaçant d'avoir cette chance. Je pense que c'est un droit et que voilà, on est quand même là pour... D'ailleurs, ça n'est que consultatif, hein, donc c'est déjà un handicap, je trouve. Et bon, il a été question des RIVSEP, mais ça, je pense que vous l'avez pas mal abordé la dernière fois. Et là, vraiment, j'étais scandalisée par les injustices qui sont proposées, puisque, si vous avez bien compris, en fait, l'indice suit une hyperbole, hein, c'est-à-dire que plus on est dans les biats de catégories les plus élevées, plus la prime est plus élevée. Hein, il n'y a rien de proportionnel par rapport à la montée des indices.
C'est un sur X, quoi, c'est ça, une hyperbole.
Ah oui, c'est très, très injuste. Hein, je pense que là, et je regrette que tous les personnels n'aient pas voté contre. Hein, il n'y a pas unanimité. Vraiment, ça a été un gros regret. Alors qu'on avait pas mal discuté avec les collègues, ils étaient scandalisés par l'inégalité que cela pouvait provoquer. Mais en fait, voilà, il y a eu pas mal d'abstentions. Et là, j'étais vraiment très choquée par leur attitude. Et l'autre point qu'on avait soulevé, et ça, je pense aussi que la direction en était consciente, mais on a discuté aussi du bilan social de l'université. Et ce qui était flagrant, c'est que tous les indicateurs étaient très mauvais pour les femmes, hein, quelles que soient les rémunérations, quelles que soient les qualifications, quelles que soient les progressions de carrière, tous les indicateurs étaient mauvais. Mais ça, ils ne nous l'ont pas dit. Hein. Il a fallu quand même mettre le doigt dessus. Et ça, c'était assez flagrant. Bon, je n'ai pas tous les chiffres en tête, hein, mais tous les indicateurs étaient mauvais à ce sujet-là.
Et ces indicateurs-là, justement, c'est comparativement, par exemple, à l'année dernière, ou comment ça y est, une évolution?
Oui, parce que souvent, on avait des données sur 2-3 ans, en tout cas. Et c'était même par rapport au nombre, j'ai eu vaguement en tête, par exemple, le nombre de maîtres de conférences, par exemple, femmes et hommes. Alors, c'est vrai qu'au départ, il y a déjà un différentiel, hein, mais quand tu regardes, en fait, après les promotions, c'est multiplié par 5 ou 6. C'est-à-dire, si tu as un différentiel de fois 1,2, hein, entre, il y a plus d'hommes que de femmes. Ouais. Mais après, pour les promotions profs, de toute façon, tu multiplies par 5, voire 10, quelquefois, pour les hors-classes. Enfin, donc, de toute façon, la progression n'est pas la même, c'est sûr, pour les hommes ou pour les femmes. Mais c'est valable pour les biats, c'est valable pour l'ensemble des catégories. Hein.
D'accord.
Oui, pour les biats, en fait, c'est un peu... Voilà, en catégorie C, on a une majorité de femmes. En catégorie B, il y a une légère majorité de femmes, et en catégorie A, il y a une majorité d'hommes, en fait.
Ouais, ça, le taux de femmes serait dû en fonction qu'on monte dans l'échelle. Ben forcément, ben ça c'est
voilà,
c'est connu. Non, forcément, c'est connu, ça. Je veux dire, c'est malheureusement, ça fait partie
donc, de. C'est pas un bon bilan. Quoi.
Ah non, c'est
un.
Ah bah non, c'est carrément
de et je suis persuadé que si on faisait le même bilan genré sur les étudiants, on arriverait à la même conclusion. Quand on passe de la L1 au master, enfin de la L1 à la L3, puis de M1 à M2, et mais ensuite quand on rentre au doctorat, et ça a été fait dans. Alors c'est pas fait tous les ans.
Non, mais ça a déjà été fait, effectivement. Ça fonctionne pareil.
Et ça fonctionne exactement pareil. Et même dans des filières qui sont supposées très féminisées en L1, on voit peu à peu le taux de féminisation baisser énormément au fur et à mesure du. Voilà, que même dans des filières qui sont. Pas forcément qui sont supposés présentés comme plus égalitaires, et ben en fait le plafond de verre est voire parfois même beaucoup plus puissant en fait.
Et donc sur cette question-là, bon, à Lille, hein, enfin bon, il y a quand même quelque chose qui avait été mis en place. C'est au moins il y avait un chargé de mission qui était chargé de regarder ces questions-là.
Bah, donc, a priori, ça n'a pas été à l'ordre du jour. Hein, de toute façon, c'est une constatation.
D'accord.
Mais a priori, pour le moment, il n'y a pas de dispositif particulier. En tout cas, il n'est pas proposé quoi que ce soit, puisque là, on était surtout dans l'IDEX et la fusion. Enfin voilà, l'IRIFZEP et.
Non, mais ce que je veux dire par là, en fait, c'est que avant, jusqu'à présent, il y a toujours un chargé de mission qui est chargé de l'égalité, en fait, homme-femme, et qui regardait de très près ces questions-là. Est-ce qu'il y a eu un bilan qui a été fait dans ce sens-là? Parce que, a priori, tu me dis, Claire, que c'est vous qui avez mis le doigt dessus, en fait, que ça n'a pas été évoqué.
Au moment du CT.
Oui, au moment
du CT, en conclusion. Enfin, on a regardé un petit peu ce qui n'allait pas, et ça faisait partie des choses qui n'allaient pas.
Ouais, ce qu'on nous a présenté, en fait, c'est le bilan social de l'université.
D'accord.
Donc le bilan social, pour ceux qui ne l'ont jamais eu entre les mains, c'est un document de 150 pages, peut-être, dans lequel on retrouve les pyramides des âges des personnels, dans lequel on retrouve le nombre d'étudiants, le budget de l'université. Enfin, il y a vraiment tout ce qui touche
à
l'université.
Toutes les informations.
C'est vraiment très intéressant. Ouais, mais là, en l'occurrence, on nous donne ce document en disant, bah voilà, ça s'est passé comme ça en 2014. Il n'y a plus rien à dire, en fait, hein. C'est un constat et rien de plus.
Normalement, à travers le bilan social, on doit pouvoir, justement, après l'analyse, apporter des corrections là où effectivement il y a des points qui sont un peu.
Il faudrait, oui.
Bon, nous chargerons de regarder ça de près, et puis c'est pour ça que le
problème de l'égalité homme-femme a été soulevé. Par les élus.
D'accord.
Bon, l'administration n'avait aucune solution immédiate à y apporter.
Donc la prochaine étape, c'est la présentation du bilan à l'échelle du CA, me semble-t-il, hein, c'est ça? D'accord. Il faudra qu'on briefe nos amis, nos camarades du CA pour qu'ils reposent les questions. Mais j'imagine qu'ils doivent être au courant.
Sinon, ils nous écoutent. Hein.
Ah, mais ils sont en travail, donc.
Mais ils nous écoutent aussi. Ils leur fait confiance.
Ou ils nous écouteront plus tard.
Alors on fait une petite pause peut-être musicale pour.
Avec Les Vents Passent.
Les Vents Passent.
C'est une obsession. Elle ne pense qu'à ça. Elle n'endort plus la nuit. Elle me gâche la vie, j'en ai plus cassé, c'est une vraie maladie. Rien ne lui fera changer ta vie, je ne sais pas ce qu'il y a pris, car la seule chose qui lui ferait plaisir, ce serait de voir Chirac en prison.
Voir Chirac en prison. Voir
Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Derrière la vitrine sur Radio Campus 106.6, l'émission intersyndicale, tous les jeudis de 14h à 15h. Et pour la fin de cette émission, on va terminer avec quelques dates et puis un point ciné. Parce que voilà, on aime bien le cinéma aussi. Et alors, quelques dates. Alors, on parlait des élections à Lille tout à l'heure. Il se trouve que côté étudiant, il y a une liste interassociative et syndicale. Qui partirait avec le soutien de Sud, du coup, qui organise une réunion de présentation mercredi midi, mercredi prochain, 3 février, midi, à 12h à la MDE, dans la salle du fond, avec trois axes qu'on a déjà un peu définis, un campus lieu de vie et de démocratie, un campus accessible à toutes et tous, et un lieu de formation de qualité et de partage scientifique. Voilà, il y a pas mal de militants associatifs et d'étudiants, pas forcément syndiqués, qui voilà, sont motivés pour construire une liste, et du coup on fait ça de manière assez ouverte et avec un programme qu'on essaye participatif. Voilà, on s'initie à certaines choses et c'est plutôt bien, je trouve. Au niveau des dates, samedi ici, il y a une manif à la République à 14h contre la déchéance de nationalité et état d'urgence appelée par un large collectif d'organisations. Au niveau national, c'est un appel national.
Ça va être une grosse manif.
Voilà, qui est une manif, qui est aussi un appel à Paris. Voilà, il y a un appel dans toutes les villes de France. Donc à Lille, c'est 14h République samedi. Et au niveau des dates... Ah oui, si, je fais une petite pub pour des copains de Lille 3 qui ont des élections du FR mardi 2 février en langue. Et voilà, juste si les étudiants en langue nous écoutent, voilà, les copains de Sud Lille 3 se présentent aux élections du FR en langue mardi. et je crois que j'ai fini pour les dates du calendrier. Du coup, on va passer au cinéma, Charlotte.
Oui, alors du coup, ça sera un rapide petit point cinéma sur un film qui va sortir prochainement, donc le 24 février, si ma mémoire est bonne.
Qui n'aura pas qui ne sera pas primé au César ni aux
Oscars.
J'en doute, mais qui est quand même un peu intéressant, un peu engagé en tout cas, qui s'appelle Merci Patron, donc qui est fait par le directeur de Fakir, monsieur Ruffin.
François Ruffin, tout à fait.
Voilà. Et du coup, il y avait une avant-première lundi où quelques militants de Sud étudiants y sont allés. Et du coup, je suis un peu là pour en faire le retour parce que c'est un film plutôt intéressant, plutôt drôle des fois également. Même si le début nous a un peu fait peur parce qu'on s'est demandé mais qu'est-ce qui se passe, c'est qui cette personne là qui dit qu'il va aller renouer le contact avec entre les patrons et les ouvriers qui se sont fait virer parce que leur usine est délocalisée. Donc du coup, on s'est un peu demandé ce qui se passait là-dedans. Surtout que le discours du coup d'ouverture du film de la part du patron Fakir au début a été de nous exposer une théorie sur renouer le dialogue social avec la frite. Du coup, on s'est un peu posé des questions, mais vous inquiétez pas, le film est plutôt pas mal, très intéressant sur comment réagir face justement à tout ce qui est délocalisation ou face au grand PDG.
D'après ce qu'on dit François Ruffin, en fait, j'ai reçu un tract venant de sa part qu'il adressait au syndicat et à la CGT en particulier. Il dit, voilà ce qu'il dit, en fait, il commence par son courrier en disant « c'est pas la joie, c'est le bordel dans la gauche et les militants ont le moral miné ». Alors voilà, contre cette morosité, je vous propose une arme, un film. Merci patron. En gros, c'est l'arnaque en version lutte des classes. Voilà.
C'est exactement ça, et c'est effectivement très drôle.
Une bande de pieds nickelés ch'tis qui a pour de vrai piégé les groupes LVMH et son PDG Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a. François Ruffin, donc c'est lui qui a réalisé ce film. Alors je me demande d'ailleurs, nous globalement, il faudra qu'on regarde, peut-être qu'on s'organise au niveau syndical, si on ne peut pas venir faire venir ce film à l'université et puis organiser un débat autour de ces questions-là.
Ouais. Mais en tout cas, un débat autour de ça peut être très intéressant parce qu'effectivement, c'est un peu un film où on a l'impression d'être. C'est un peu comme s'il y avait une genre d'affaire en mode. En mode résistance, en mode organisation de plan, ça fait très film d'espion où ils vont essayer de piéger quelqu'un et effectivement ils y arrivent et c'est plutôt assez drôle la manière dont ils le font. Donc je vous conseille d'aller voir si vous avez envie de vous marrer un peu pour lutter contre la morosité.
Donc nous vous tiendrons au courant des premières qu'il y aura ici en France, lorsque le film viendra ici, on ne manquera pas de vous le...
D'après l'affiche derrière la vitrine, c'est le 24 février qu'il sort.
Mais est-ce qu'on ne sait pas dans quelle salle
on ne sait pas encore dans quelle salle. À mon avis, il sera au Méliès.
Je pense qu'il ira au Méliès ici à Villeneuve-d'Ascq, certainement.
Ou au Métropole à Lille.
Voilà, donc on arrive donc au terme de cette émission, puisqu'il est exactement 14h et passé de 56 minutes.
suite.
On va bientôt pouvoir lancer le générique même.
L'émission derrière la vitrine des organisations syndicales de Lilin vous remercie d'avoir été à l'écoute. Et puis donc on va laisser la place à la prochaine émission qui s'intitule
Classique sans complexe.
Je crois que notre ami est déjà là.
Et pour oui. Ouais, pour rappel, on se retrouve du coup tous les jeudis à 14h et les émissions elles sont disponibles sur le site du Radio Campus et on essaye de les mettre en ligne sur YouTube aussi.
Oui, sur le YouTube de Sud Étudiant.
Et on essaye de les mettre sur Facebook, tout ça, parce que c'est la modernité. Et
c'est ça.
Dit celui qui n'est pas sur Facebook, hein, d'ailleurs, pour ma part. Mais voilà.
C'est le vieux du sein.
Très bien. Donc,
bonne semaine à tous. Et restez éveillés.
Restez à l'écoute.
Restez éveillés à la semaine prochaine.
Au revoir. À la semaine prochaine, au revoir.
Allez, debout là-dedans.
C'est quoi ça?
Debout là-dedans, bordel! Allez, debout là-dedans!
C'est quoi ce bordel?
Allez, debout!